Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. Le deuxième anniversaire de la double explosion dans le port de Beyrouth, qui a fait plus de 224 morts et 7000 blessés, selon un dernier bilan. « Je ne laisserai pas disparaître le Liban », promet Emmanuel Macron dans un entretien à Lorient le Jour. Le président français appelle à la reprise de l'enquête sur cette explosion. Pour évoquer le deuxième anniversaire de la catastrophe au Liban, nous écouterons Vincent Gelot, un des responsables de l'œuvre d'Orient, ONG, qui a participé à l'aide apportée aux Libanais. Entretien également avec l'écrivaine Georgia Marlouf. La réforme de l'immigration voulue par Gérald Darmanin a été reportée. Le ministre de l'Intérieur annonce qu'il y aura d'abord une phase de concertation, puis un débat au Parlement. La Cour européenne des droits de l'homme rejette la demande de suspension de la mesure d'expulsion de Hassan Iquissen vers le Maroc. Enfin, à Montargis, un homme placé en garde à vue après la mort de sa femme, enceinte de 8 mois. Il y a 2 ans, peu après 18 heures, une double explosion dans le port de Beyrouth faisait 224 morts et 7000 blessés, dont 150 personnes devenues handicapées, selon les derniers chiffres fournis par l'Association des familles des victimes. Un drame évoqué aujourd'hui par les responsables politiques libanais. Le président Michel Aoun promet que la justice sera rendue. Le premier ministre Najib Mikati appelle à punir les criminels. L'ancien premier ministre Saad Hariri réclame la justice pour les victimes. Hier, 6 experts indépendants des Nations Unies ont réclamé une enquête internationale. Aujourd'hui, dans un entretien à Lorient le Jour, Emmanuel Macron promet de ne pas laisser le Liban disparaître. Il demande également la reprise en toute indépendance de l'enquête suspendue sur l'explosion. Le président Macron rappelle que la France a entraîné une mobilisation internationale exceptionnelle et inédite pour éviter l'effondrement institutionnel, financier, économique, social et culturel brutal du pays. Le président français appelle le Liban à mettre en place des réformes pour reconstruire le Liban sur des bases saines. Lors de cette catastrophe, il y a 2 ans, des quartiers entiers de Beyrouth ont été détruits. Parmi les bâtiments détruits ou endommagés, 6 hôpitaux, une 20aine de cliniques et 120 écoles. Le traumatisme reste fort 2 ans après. Parmi les associations qui ont participé à l'aide apportée aux Libanais, l'œuvre d'Orient. Entretien avec Vincent Gelot, responsable de projet pour l'ONG en Syrie et au Liban.
Je dirais qu'il y a eu un avant et un après 4 août pour le Liban et pour les Libanais, et même aussi à notre petit niveau, au niveau de l'œuvre d'Orient. Moi, j'étais présent le jour du 4 août lors de l'explosion. Voilà, je l'ai vécu aussi dans ma chair, dans ma maison a été abîmée, donc comme beaucoup de Libanais. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement fort pour nous. Et il est vrai que dans la réponse qui a donné lieu à cette explosion, il y a à la fois un sentiment d'injustice, notamment de la part des familles des victimes, par rapport à l'absence de réponse par rapport aux raisons de ce drame, de cette explosion. Et puis il y a eu aussi la formidable réaction des Libanais et cet élan de solidarité qu'on a vu dans les jours qui ont suivi l'explosion, avec toutes ces personnes venues des 4 coins du pays qui nettoyaient les rues, les hôpitaux, qui commençaient à réparer les maisons, à prendre soin des blessés. Ça, c'était fabuleux. Donc ça a montré aussi que ce pays avait encore des ressources, avait encore des beautés et avait encore une force de vie et de survie. Voilà. Il y a eu aussi, dans l'après 4 août, moi, on a vraiment senti un vrai effort de coordination entre les différentes associations locales et internationales qui travaillent sur place. Et ça, c'est quelque chose qui se poursuit encore aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi encore très fort et très beau. Et puis, voilà, donc le 4 août, est, je crois, de façon générale au Liban, maintenant vécu aussi comme un drame national et comme une espèce de trauma aussi, parce que c'était quelque chose de très soudain, très brutal, très inattendu, qui a cassé quelque chose aussi au sein des Libanais. Ça a cassé aussi une sorte de confiance Voilà, et ça a ravivé aussi pour certains les vieux souvenirs de la guerre civile. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Je pense que ça prendra du temps avant que cette plaie soit blessée. Il faudra du temps pour qu'il y ait aussi les réponses qui soient données par rapport aux raisons de ce drame. Mais aujourd'hui, oui, ça reste et ça va certainement rester comme un moment majeur, un moment de l'histoire majeure, de l'histoire récente du Liban, c'est sûr.
Et comme souvent lors de catastrophes majeures, vous avez vu un peuple se révéler.
Ah oui, tout à fait. C'était, je vous dis, les jours qui ont suivi le 4 août, de voir que les rues de Beyrouth étaient pleines de monde, pleines de Libanais venus de tout le pays pour soulager la souffrance des gens qui étaient sur place, de voir cet élan de solidarité aussi de la part de la diaspora, de la part de différents pays, notamment la France. Il y a eu quand même un vrai effort de solidarité auprès des Libanais, et ça c'était très beau. Et puis de voir que ce pays a encore, je vous dis, cette volonté de se battre pour que ce pays retrouve un chemin d'espérance, retrouve une raison d'être, et garde ce fameux message dont parlait Jean-Paul II. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est véritablement les Libanais. On a vu à ce moment-là qu'il y avait encore que ce pays valait qu'on se batte encore pour lui, même si la situation, je dirais, quotidienne est assez dure et assez déprimante, mais qu'il avait encore des ressources et qu'on devait pour cela, ça valait le coup de continuer à se battre pour ce Liban.
Est-ce que vous avez constaté une union entre les différentes communautés? C'est une des particularités du Liban.
Oui, écoutez, je pense que toutes les communautés souffrent de la crise. Ça touche pas une communauté plus qu'une autre. Tout le monde en souffre. Tout le monde souffre aussi de la logique un peu partisane qui anime l'une ou l'autre communauté. Donc, on a vu, en effet, suite à ce drame, on a vu quand même une certaine communion, je dirais, à la fois peut-être dans la colère par rapport à ce qui s'est passé, à ce drame et à aux responsabilités qui seraient celles du gouvernement en place, notamment, et puis aussi une communion par rapport au soutien à la solidarité locale. Il y a quand même un énorme travail de la part du tissu associatif local, laïque ou confessionnel. Il y a eu quand même des très belles réactions. Je crois que les Libanais, en général, en ont un peu marre des démons du passé, si vous voulez. Ils ont envie de sortir de cette logique qui avait généré la guerre civile et qui se poursuit aujourd'hui avec des chefs de parti qui sont les anciens seigneurs de guerre de la guerre civile et qui sont encore au pouvoir, avec ces mêmes partis qui sont là et qui scindent le pays. Et donc je crois qu'il y a toute une frange des Libanais, notamment ceux qui faisaient partie des manifestants en 2019, qui ont envie de sortir de cette logique-là, sans forcément remettre en cause le système confessionnel, mais qui ont envie en tout cas de changer les personnes, changer les partis, pour retrouver un peu un nouveau souffle. Et on a vu lors des élections législatives qui se sont déroulées dernièrement que ce désir de changement s'était quand même exprimé dans les urnes, et on a vu des nouveaux visages arriver au Parlement libanais, alors qu'ils vont peut-être pas changer tout de suite le quotidien des Libanais, mais en tout cas ça a montré que par la voie du vote, les Libanais avaient quand même leur mot à dire et que ça pouvait changer la donne au niveau du Parlement.
Vous avez récemment présenté à l'œuvre d'Orient votre rapport Urgence Beyrouth. Quels en sont les éléments clés?
Bah écoutez, l'objet de ce rapport, d'abord, c'est un rapport qui était en partenariat avec d'autres organisations, notamment la Fondation de France, l'association Amel, qui est une association libanaise. Il y avait également le F3E, donc c'était un consortium d'organisations qui avons travaillé dessus, et nous avons fait appel à un groupe de travail pour justement voir ce qui s'était passé après le 4 août. Quelles avaient été les actions mises en place par les organisations, les grandes organisations internationales, les plus petites, les organisations locales, la société civile, l'armée, les structures publiques locales, voir comment c'était organisé, ce qui avait fonctionné, ce qui avait moins bien marché, et quelles leçons on pouvait en tirer. Voilà. Donc suite à cette étude, on a vu que il y a un bilan qui est assez documenté, c'est plus résumé ici, mais globalement ce qu'on a vu, c'est quand même que la réaction de la société civile avait quand même été assez exceptionnelle, qu'elle se poursuivait aujourd'hui, c'est-à-dire que même si aujourd'hui, je dirais que au niveau de la reconstruction, même s'il reste encore des bâtiments à reconstruire, une grande partie du bâti a été réhabilité, reconstruit, que si vous voulez, cette espèce d'élan qui est né du 4 août se poursuit aujourd'hui dans la crise. Et ça, c'est quand même, je dirais, par effet, c'est ce que les Libanais ont su tirer de ce drame pour répondre aujourd'hui à la crise. Donc voilà, il y a plusieurs, c'est vraiment une étude très intéressante et on espère qu'elle donnera des suites justement pour voir comment on peut améliorer je dirais, la coordination locale entre les différentes structures et comment on peut commencer à se préparer à mieux faire face à une crise qui risque de se poursuivre et même de s'aggraver dans les mois et peut-être même les années à venir.
Vincent Gelot de l'œuvre d'Orient au micro de François-Xavier de Calonne. Autre témoignage, celui de l'écrivaine Georgia Marlouf. Après cette explosion, elle a publié l'ouvrage Le goût du Liban au Mercure de France. Elle était l'invitée de Rencontre sur Radio Orient.
En réalité, moi j'étais à Beyrouth et j'en suis partie l'avant-veille de cette terrible explosion. Bon, j'ai la chance d'habiter un appartement qui se trouve malheureusement dans une relative proximité au lieu de l'explosion. Et c'est un appartement du début du siècle dernier dans lequel il y a un magnifique vitrail en verre coloré qui est caractéristique des maisons anciennes. Et ce vitrail, selon la lumière et les saisons, habille mon salon de motifs assez incroyables, abstraits ou figuratifs d'ailleurs, et je le photographie sans cesse. Et le jour de mon départ, j'ai fait des photos et je les ai envoyées à un groupe d'amis en leur disant « cadeau d'adieu de ma maison ». Et je ne sais pas pourquoi j'ai écrit « cadeau d'adieu de ma maison ». Et voilà, donc comme si j'avais une espèce de prémonition. Voilà, et puis deux jours après, ce terrible après-midi, en fait, je reçois de mon fils d'ailleurs une première information disant qu'il y a un incendie sur le port de Beyrouth. Alors au début, je ne m'inquiète pas énormément, et puis en fait, je suis bombardée de messages, et je réalise, mais ça a été très progressif l'ampleur de cette horreur, quoi, de cette explosion quasi atomique. Alors évidemment, comment ça se passe? Ça se passe qu'on échange des messages, mais sans cesse, et on reçoit des messages sans cesse, on se tranquillise sur sa famille, ses plus proches, ses voisins, et puis après on élargit le cercle, et puis on apprend des nouvelles absolument terrifiantes sur le nombre des victimes, sur le nombre des blessés. Et il se trouve que j'ai deux amis, mais vraiment très proches, qui ont l'un perdu un œil et l'autre qui a été, mais c'est entre autres, hein, c'est un exemple parmi malheureusement tant d'autres, une autre amie qui a eu de multiples fractures le long de ses bras, tous ses doigts ont été cassés, enfin des amis très proches qui ont vécu des choses terrifiantes. Et puis petit à petit on apprend que, et encore ici et encore là, et voilà, c'est une espèce d'avalanche, voilà, c'est comme une avalanche de mauvaises nouvelles et de choses absolument terrifiantes qui nous laissent tétaniser. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Et puis une de mes amies, quelques jours après, me dit, m'a renvoyé cette photo terrible que j'avais envoyée avec cette légende, cadeau d'adieu, comme s'il y avait quelque chose de prémonitoire. Voilà.
Et cet appartement a été endommagé?
Oui, oui, bien sûr, il a été, bien sûr. Je n'en parle pas parce que ça paraît tellement indécent de parler de biens matériels qui sont perdus. En fait, j'ai été alertée parce que une de mes amies m'a envoyé d'abord une vidéo. Vous savez, dans ce quartier dans lequel est mon appartement est un quartier qui a gardé un cachet relativement traditionnel. Et souvent, des couples qui vont se marier ont pris l'habitude de venir faire des photos de leur mariage ou de leur juste avant la cérémonie ou des vidéos dans le quartier. Et il y a une vidéo qui a ensuite beaucoup circulé d'une jeune femme en habit de mariée qui est quasiment en dessous de mes fenêtres et qui est en train de poser pour un vidéaste. Et puis au moment où arrive cette explosion, et la mariée part en l'air comme si elle s'envolait, mais en fait c'est le souffle de l'explosion qui l'emporte, et heureusement elle n'a que des blessures. Et donc cette amie m'a envoyé cette vidéo en me disant, c'est en dessous de chez toi, elle avait reconnu, est-ce que ton appartement est détruit? À ce moment-là je ne le savais même pas encore, parce que je ne me préoccupais pas de mon appartement face à l'ampleur et puis c'est le soir plus tard que que le gardien de l'immeuble m'a dit, m'a envoyé d'ailleurs une vidéo qu'il a fait avec son téléphone pour m'informer des dégâts qu'il y a eu chez moi et qui ont été absolument terrifiants. Et ce fameux vitrail a été brisé. Et je me suis vraiment jurée de le reconstruire à l'identique, ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais ça a été un long chemin, voilà.
Et l'écrivaine Georgia Mahlouf, elle a publié Le goût du Liban au Mercure de France. Elle était l'invitée de rencontre sur Radio Orient, émission que vous pouvez écouter sur radioorient.com. En France, Gérald Darmanin annonce le report du projet de loi immigration, un texte qui devait être examiné au Sénat en octobre. Le ministre de l'Intérieur explique au Figaro qu'une concertation sera d'abord organisée à la rentrée place Beauvau avec les partis politiques, les partenaires sociaux, les associations et les représentants de la société civile. Il y aura ensuite un grand débat sur l'immigration au Parlement avant la présentation du projet de loi. Gérald Darmanin explique qu'il souhaite modifier en matière d'immigration une réforme profonde de l'organisation de l'asile. Il souhaite également une intégration bien plus exigeante des étrangers arrivant sur le territoire national. Le ministre de l'Intérieur promet aussi une lutte plus intraitable que jamais contre les étrangers délinquants. L'avocate de Hassan Iquissen avait demandé à la Cour européenne des droits de l'homme de suspendre son expulsion vers le Maroc, mais la Cour a rejeté cette demande. Gérald Darmanin a annoncé la semaine dernière la prochaine expulsion de cet imam qui vit dans le nord de la France. Il est accusé par les autorités françaises d'avoir lancé des appels à la haine et à la violence, visant notamment la communauté juive. L'association de défense des animaux L214 porte plainte contre la société SOFA. L'association l'accuse d'avoir vendu des moutons vivants à des particuliers pour être abattus clandestinement lors de l'Aïd el-Kébir. Les faits auraient eu lieu à Deux-Lémont dans le Nord. 26 départements français toujours en vigilance orange canicule. Si la journée d'hier était la plus chaude de la semaine, le pic de chaleur est encore présent ce jeudi. Enfin, une femme enceinte de 8 mois a été retrouvée inconsciente dans la nuit de mardi à mercredi à Montargis dans le Loiret. Elle est décédée à l'hôpital. Son corps présentait de nombreuses fractures. Le bébé qu'elle portait n'a pas été sauvé. Son conjoint, âgé de 35 ans, a été placé en garde à vue. Il est suspecté d'avoir tué son épouse. Cette édition est terminée. Je vous retrouve à 15h pour le Flash, 17h30 pour le journal. Excellente journée à tous.